Vous écoutez C'est pour ma pomme, le podcast qui chaque semaine vous parle des produits Apple et de leurs usages. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que j'utilise quotidiennement iOS 16 et j'ai décidé de vous faire mon premier retour à l'heure où la deuxième bêta vient de tomber il y a tout juste quelques jours. Bien sûr, dans cet épisode, je ne vais pas vous faire un tour complet d'iOS 16, il y en a déjà des tonnes et des tonnes sur YouTube. Je vais plutôt me focaliser sur les fonctions que j'aime le plus, mais ne l'utilisant que sur un téléphone secondaire, ça ne restera que du test et pas de l'utilisation quotidienne. Vous l'aurez bien compris, je me sers de ce téléphone les soirs et les moments où je suis à la maison, mais c'est vraiment pas un téléphone que je vais emmener toute la journée avec moi. J'ai installé la bêta développeur directement après la keynote du 6 juin, mais néanmoins, même au bout de 2 semaines, je continue à ne pas recommander aux gens autour de moi de l'installer si vous n'avez pas un téléphone dédié au test, un téléphone ou bien sûr un iPad. Moi, la bêta est installée sur un iPhone 10, un iPhone 10 que je n'utilisais plus. Même si cette bêta est vraiment globalement stable, on ne peut pas dire qu'elle soit instable, mais elle comporte encore quand même beaucoup de bugs. Et l'installer sur un téléphone que vous utilisez au quotidien pourrait vraiment être pénalisant dans certaines conditions. Alors justement, parlons tout de suite de la chose qui fâche. L'autonomie. J'avais l'impression dans les premiers jours d'installation de la bêta, alors pour info, j'ai quand même installé la bêta déjà sur mon téléphone et au bout d'une semaine, une semaine et demie, je l'avais installé sur un iPad Pro 10,5 que j'avais encore. Donc dans les premiers jours, j'avais vraiment l'impression que l'autonomie n'était pas si mauvaise que ça. Mais au fur et à mesure de mes tests, au fur et à mesure de mon utilisation quotidienne, je me suis rendu compte que la batterie de mon iPhone fondait vraiment comme neige au soleil et en plus de ça que l'appareil avait réellement une fâcheuse tendance à surchauffer, mais vraiment surchauffer beaucoup. Donc encore une fois, et je vais le répéter je pense beaucoup dans cet épisode, n'installez pas cette bêta sur votre téléphone personnel car ça serait vraiment pénalisant et vous pourriez clairement, si vous utilisez des applications qui sont un peu gourmandes en énergie, vous pourriez vous retrouver sans batterie de téléphone au bout de seulement quelques heures. Je vous avoue que j'ai pas refait des tests poussés d'autonomie depuis que la bêta 2 est arrivée. La bêta 2, j'ai dû l'installer hier soir ou avant-hier soir, donc j'ai pas réellement refait de tests d'autonomie. Donc je sais pas si ce point s'est grandement amélioré sur la bêta 2, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes encore dans les toutes premières bêtas. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, à la deuxième bêta, et ce problème d'autonomie sera encore présent dans pas mal de versions jusqu'à au moins l'arrivée de la bêta publique en juillet. Donc maintenant que ce petit point noir est dit, passons à iOS 16 proprement dit et à ce que j'en ai pensé depuis que je l'utilise. Premier point dont je voulais vous parler, l'écran verrouillé. Alors, la première chose que l'on voit quand on allume son téléphone et qu'on a installé la bêta, c'est le nouvel écran verrouillé. Sur ce point, je trouve vraiment que les améliorations apportées sont pour la plupart bienvenues. Alors, parmi ces améliorations, celle qui marque le plus, enfin en tout cas pour moi, l'arrivée des complications comme sur l'Apple Watch, qui peut vous permettre d'un seul coup d'œil de voir, alors moi c'est des choses que j'ai installées sur mon téléphone de test, mais qui peut vous permettre de voir la météo, vos cercles d'activité, vos prochains rendez-vous sur votre calendrier, sans avoir même à déverrouiller votre téléphone. Et ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est agréable à l'utilisation. Cependant, je pense quand même que cette fonction pourrait prendre toute son utilité si un des futurs iPhone 14, comme c'est revenu dans les rumeurs, a un écran Always On. Comme ça, on pourra voir toutes nos informations sans même avoir à toucher le téléphone s'il est posé sur une table ou à côté de vous, par exemple. Et là, je pense que la fonction des complications prendra toute son utilité. Comme ça, on pourra voir vraiment d'un seul coup d'œil les choses les plus importantes pour nous. Donc c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié là de mes 2 semaines d'utilisation, ces petites complications qui ressemblent réellement aux complications qu'on peut trouver sur l'Apple Watch, j'ai trouvé que c'était vraiment utile. Deuxième nouveauté que j'aime beaucoup, Le découpage, en fait, grâce à l'intelligence artificielle de certaines photos qui peut vous permettre de faire un fond d'écran beaucoup plus simple, beaucoup plus graphique, beaucoup plus moderne, et qui, en fait, le téléphone, l'intelligence artificielle du téléphone va prendre le sujet de la photo, va le découper, va le ressortir un peu de l'image, et l'heure va se glisser juste derrière, un peu caché par le sujet de la photo. Et je trouve vraiment que ça ajoute un réel cachet, à l'écran verrouillé, par rapport à tout ce qu'on avait connu avant, qui était vraiment réellement simple. Toujours dans les fonds d'écran, on a quand même, sur ces premières bêtas, et sur iOS 16 en tout cas, un large choix de fonds d'écran de verrouillage, qui sont proposés d'origine par Apple, contrairement à la, allez, on va dire à la dizaine, à la douzaine de fonds d'écran qu'on avait sur les précédents OS. Donc, et en plus, sur les précédents OS, il faut bien avouer quand même que tous les fonds d'écran se ressemblaient un tout petit peu. Donc maintenant, on peut vraiment, vraiment personnaliser son écran verrouillé beaucoup plus finement. Et pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées ou de photos qu'ils ont envie de mettre comme fond d'écran, bah vous avez quand même un choix énorme de fonds d'écran qui vous sont proposés par Apple directement. Donc c'est assez joli, et ça permet de vraiment de personnaliser beaucoup plus son téléphone et de ne pas avoir le même téléphone que tout le monde. Troisième chose, l'emplacement des notifications qui se retrouvent maintenant en bas de l'écran, contrairement à et qui forcément, en se retrouvant en bas de l'écran, ne cache pas complètement le fond d'écran. C'est vrai que jusqu'à maintenant, dès qu'on avait quelques notifications au fur et à mesure de la journée, on ne voyait plus du tout le fond d'écran, donc ça n'avait plus aucune utilité, et ça faisait vraiment, vraiment surcharger. Surtout pour les personnes comme moi qui utilisaient le journal de notification. Vous savez, ce petit journal qu'on avait 2 à 3 fois par jour, qui nous listait un peu toutes les notifications qu'on n'avait pas forcément vues tout au long de la journée. Alors dès qu'on avait ce journal sur l'écran, on ne voyait plus que ça sur l'écran. Et ça faisait vraiment, vraiment surcharger, je trouve. Alors c'est vraiment utile, hein, ce journal de notification. Moi, je l'utilise assez souvent. Je trouve que c'est vraiment utile. Mais par contre, c'est vrai que c'est une fois qu'on l'avait sur l'écran, on ne voyait plus rien d'autre. En plus de ça, vraiment maintenant le nouveau système de notification qui est un système entre gros guillemets de carrousel en bas de l'écran, permet de retrouver plus facilement une notification que vous auriez pu louper au fur et à mesure de la journée. Vous aurez beaucoup plus de facilité pour retomber dessus en swipant dans ce carrousel. Et c'est, enfin moi je trouve que l'utilisation est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus logique comme ça. Alors, pour finir sur l'écran verrouillé, il y a une chose que j'aime pas forcément. Alors c'est réellement subjectif, hein, mais c'est les polices d'écriture qu'Apple a choisies pour l'heure, pour ce nouvel écran verrouillé. Alors, à part celle que vous avez au départ, si vous installez la bêta, ce que je recommande bien sûr pas du tout, mais à part cette police d'écriture que vous avez au départ, je trouve que les autres, bah, sont pas forcément de bon goût, ne vont pas forcément avec le style de l'iPhone. Comme je vous le dis, ça reste subjectif, ce n'est que mon avis sur ce point. Mais on se croirait vraiment, alors soit sur Android si je veux faire un peu le troll, mais plutôt on se croirait revenu au temps du jailbreak avec ces téléphones qui forcément, hein, n'avaient plus rien à voir avec les téléphones d'origine, mais qui n'étaient pas forcément de bon goût. Donc moi j'aime bien sur le téléphone que j'utilise en test sur mon iPhone 10, j'ai vraiment laissé la police qu'Apple vous met au départ. C'est celle qui ressemble le plus, j'ai l'impression, à ce qu'on avait auparavant. Enfin, pour moi, ça me va très bien. Je pense que quand iOS 16 sera sur mon téléphone principal, je vais bien le personnaliser au niveau du fond d'écran, au niveau des widgets. Mais par contre, au niveau de la police, je pense rester le plus sobre possible et enfin, ce qu'on a au départ en tout cas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'écran verrouillé. Voilà les points que moi j'ai remarqués, qui me plaisaient un peu moins. Deuxième gros point de mon utilisation que j'ai bien apprécié, les modes focus. Alors, Bien sûr, les modes focus, je les utilisais déjà beaucoup auparavant. Je vous avais d'ailleurs fait un article sur le blog qui utilise un raccourci qui c'est une personnalisation en fait de mon springboard d'iPhone qui utilise complètement les modes focus. Donc les modes focus, outre le fait qu'on peut changer les fonds d'écran en fonction du mode focus que l'on utilise, c'est bien, mais moi c'est pas la nouveauté que j'utiliserai le plus. Moi, vraiment, la nouveauté qui me plaît le plus et qui, je pense, enfin, moi, je vais l'utiliser énormément, c'est le fait que certaines apps comme Mail, Message, se synchronisent ou vont avec les modes focus en fonction de ceux que vous utilisez. Ce qui fait que, petit exemple, ce qui fait que quand vous êtes à la maison, vous êtes sur un, on va prendre un exemple bateau, vous êtes dans un mode focus repos, un mode que vous auriez créé pour quand vous êtes à la maison, quand vous n'êtes pas au travail, eh ben, vous ne pourrez pas recevoir, si vous l'avez bien configuré, vous ne pourrez pas recevoir de mail ou de message du travail. Et inversement, quand vous êtes au travail, si vous êtes en mode focus, travail et que vous avez bien configuré, bah, vous ne recevrez pas forcément des mails ou des messages de l'extérieur qui pourraient permettre de vous déconcentrer dans votre tâche. Donc vraiment, c'est ce réglage beaucoup plus fin des modes focus qui permet d'inclure les apps, en tout cas les applications natives pour l'instant, je trouve qu'en termes d'augmentation de productivité, c'est vraiment un énorme gain. Troisième chose que j'ai adoré, et ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré depuis que j'utilise la bêta au quotidien, c'est le fait qu'on puisse utiliser la dictée et le clavier en même temps sur le téléphone. Depuis très longtemps, moi, ça fait plusieurs, ouais, j'irais dire plusieurs années maintenant, j'ai pris vraiment l'habitude de dicter beaucoup de choses sur mon téléphone plutôt que de les écrire. Alors c'était bon pour les messages, c'était bon pour quand je prenais des notes, même pour écrire des mails. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, si on faisait une faute, c'était assez. Alors, excusez-moi du mot, mais c'était entre guillemets assez chiant la manipulation pour passer de la dictée au clavier. Ça, une fois sur deux, vous faisiez la mauvaise manipulation ou, enfin bref, c'était vraiment pas facile. Avec iOS 16, le fait qu'on puisse utiliser les deux en même temps, ça rend vraiment l'utilisation et de l'un et de l'autre beaucoup plus simple. Vous dictez un message, vous faites une faute ou y a quelque chose qui va pas, tac, vous tapez au clavier, vous revenez, vous faites votre correction et inversement, vous êtes en train d'écrire un message, vous voulez dicter quelque chose. Enfin, vraiment, moi en tout cas, je trouve que l'utilisation est vraiment, vraiment géniale. Donc ça, c'est réellement une grosse nouveauté que j'ai beaucoup, beaucoup adoré dans mon utilisation d'iOS 16. Autre chose que j'ai apprécié mais que j'utilise pas forcément beaucoup non plus, c'est iMessage, enfin les nouveautés d'iMessage. Alors moi je dois bien avouer qu'elles sont réellement bien ces nouveautés. Alors pour explication, avant de vous dire ce que j'en pense, je vais déjà vous dire les nouveautés enfin de quelles nouveautés je parle en tout cas. Le fait qu'on puisse éditer et annuler un message sur iMessage. Moi c'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien. Alors déjà, parce que quand j'envoie pas beaucoup, beaucoup de messages dans mon quotidien, et le peu de messages que j'envoie, c'est à des personnes extrêmement proches, soit ma femme, c'est vraiment des personnes, un cercle très, très fermé autour de moi, de quelques personnes. Donc, si je fais une faute d'orthographe, on va pas se mentir, on est tous pareils. Si on écrit à notre compagne ou à nos enfants, on fait une petite faute d'orthographe, on va pas forcément aller s'amuser à la corriger tout de suite. C'est des messages généralement bateaux pour dire des choses très simples. Donc, je ne pense pas que ça soit quelque chose qu'on va utiliser tout le temps, en tout cas dans un cercle très fermé familial. Après, quand vous utilisez iMessage pour envoyer des messages un peu plus formels à d'autres personnes qui sont un peu plus éloignées de vous, oui, là d'accord, on pourra peut-être utiliser ces fonctions, mais je pense pas, moi, dans mon utilisation quotidienne d'iMessage, je ne pense pas que j'utiliserai beaucoup ces fonctions, peut-être au départ pour pouvoir les tester pas mal, mais ça s'arrêtera là. En plus de ça, avec ma femme, moi c'est encore pire parce que avec ma femme, j'utilise comme application de messagerie Signal, donc c'est une application auquel j'aurai aucun accès à toutes ces nouveautés, donc. Voilà, je trouve vraiment que ces nouveautés d'iMessage sont très bien pour les gens qui vont utiliser iMessage au quotidien, pour les ados peut-être, qui utilisent énormément le texting avec leurs amis. Ça pourrait être une fonction assez utile. Moi, j'aime bien ces nouveautés, mais je les utiliserai pas forcément beaucoup au quotidien. Autre chose que j'ai vraiment adoré et alors quand je montre iOS 16 à des personnes autour de moi là qui ne l'ont pas installé et à qui ça intéresse un petit peu, c'est réellement quelque chose que je montre beaucoup, c'est les nouveautés qui touchent à l'intelligence artificielle sur iOS 16. Alors, il y a principalement deux nouveautés touchant à l'intelligence artificielle qui m'ont beaucoup marqué. C'est première nouveauté, le détourage des sujets dans une photo qu'on peut utiliser ailleurs. Dans la conférence, ils l'ont montré avec un chien, une photo avec un chien, ils détouraient le chien et ils utilisaient ce détourage, ce chien détouré pour aller le coller dans iMessage ou pour aller le coller ailleurs dans une autre application. Donc vraiment, c'est une fonction, si vous avez iOS 16, si vous avez installé la bêta, je vous conseille vraiment d'aller l'utiliser. Alors ça ne marche pas sur toutes les photos, bien sûr, il faut avoir des photos avec un sujet bien précis, bien visible sur la photo. Mais si vous avez ce type de photo, ça marche réellement bien. Et c'est une fonction qui est assez bluffante quand vous la montrez autour de vous. Deuxième fonction d'intelligence artificielle qui m'a beaucoup marqué et que j'aime beaucoup, c'est le mode OCR dans les vidéos. Alors moi je ne l'ai pas forcément utilisé beaucoup parce que je n'en avais pas l'utilité là de ces 2 semaines d'utilisation, mais ça pourrait clairement, je vois une utilité à ce type de fonction, d'aller copier un texte en faisant un arrêt sur image dans une vidéo, ça peut réellement avoir une utilité. Donc vraiment, ces deux fonctions d'intelligence artificielle m'ont beaucoup marqué, et je trouve que c'est de réel belles avancées pour iOS 16 cette année. Dernière grosse nouveauté qui m'a vraiment beaucoup pour le coup marqué dans iOS 16, c'est la nouvelle application maison. Alors je vous ai déjà fait il y a peu plus d'une semaine ou il y a une semaine un article sur le blog concernant cette nouvelle application maison. Mais comme je viens de vous le dire, ça reste vraiment pour moi l'une des plus grosses nouveautés de cette version de l'OS. Alors peut-être parce que moi c'est une application que j'utilise réellement beaucoup, que j'utilise au quotidien, ayant énormément d'objets connectés et domotiques à la maison. Mais je trouve vraiment que ce nouveau design et que cette nouvelle charte graphique, cette nouvelle façon d'utiliser la maison est vraiment, vraiment beaucoup plus intuitive à l'utilisation. Et réellement, je trouve que c'est un très, très bon changement dans iOS 16. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog si vous voulez en savoir un peu plus sur mon avis concernant cette app. De toute façon, je vous mets le lien, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Donc voilà. C'est à peu près tout, moi, les nouveautés là sur les 10-15 jours d'utilisation d'iOS 16. Et comme je le répète encore une fois, ce n'est pas installé sur mon téléphone principal. Donc voilà, je ne l'utilise pas longueur de journée. Je l'utilise quand je suis à la maison, quand j'ai envie de faire des tests, mais je l'utilise quand même énormément tous les jours. J'essaye de l'utiliser tous les jours pour aller faire un tour dans toutes les apps, pour aller voir les nouveautés. Mais ça ne reste qu'un téléphone de test, donc c'est pas un téléphone que je vais utiliser tout au long de la journée. Donc voilà quand même mon avis, mes coups de cœur sur ces nouveautés d'iOS 16, les points que j'ai vraiment appréciés sur mon utilisation d'iOS 16. Donc je vais bien sûr continuer de tester iOS 16, les futures bêta tout au long de l'été, et je vous en reparlerai bien sûr tout au long de l'été, que ce soit dans les épisodes de podcast ou bien sûr dans des articles de blog, s'il y a vraiment des découvertes ou des choses à en dire qui pourraient modifier mon utilisation, l'utilisation quotidienne de mon téléphone. Je vais le répéter encore une dernière fois, mais si vous n'avez pas d'iPhone secondaire sur lequel vous pourriez installer cette bêta, je vous conseille vraiment, vraiment pas de le faire. En tout cas, ne pas le faire pour l'instant. Attendez potentiellement d'avoir les bêtas publiques pour l'installer. Ça reste un OS de bêta, ça reste stable quand même, mais c'est quand même sujet à pas mal de bugs. Donc si vous ne voulez pas avoir une brique dans votre poche et ne plus pouvoir vous servir de votre téléphone dans un moment où vous en auriez réellement besoin, je ne vous conseille pas de l'installer sur un téléphone que vous utilisez au quotidien. Alors voilà, c'est un peu près tôt pour cet épisode. Est-ce que vous avez installé iOS 16 bêta? Alors pour malgré toutes les choses que je viens de dire, est-ce qu'il y en a quand même qui ont installé iOS 16 bêta? Et quelles sont les nouvelles fonctions qui vous plaisent le plus? N'hésitez pas à me le dire. De toute façon, tous les liens pour me joindre sont dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas, comme d'habitude, aussi d'aller mettre 5 étoiles et un commentaire au podcast pour le faire monter dans le classement et pour permettre à beaucoup plus de gens de le découvrir et de le partager aux personnes que ça pourrait intéresser autour de vous. Ça serait toujours sympa de partager et le podcast et cet épisode. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et de week-end et je vous donne rendez-vous, bien sûr, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !